Direct en jeu, la radio insolite. Direct en jeu, la radio insolite. Alors pourquoi je répète deux fois? Tout simplement parce qu'elle m'a dit « Oh tu sais Alain, si à mon dé je t'entends mal, si ça va pas, bah, écoute je te ferai répéter ». Donc vous avez bien compris, hein, je répète, comme ça je me mets déjà dans l'ambiance. Direct en jeu, la radio insolite. Direct en... Émilie, bonjour, je vais t'obliger à répéter tout ce que je dis deux fois?
Non, ça devrait aller, mais bonjour.
Bonjour Émilie. On va partir en balade comme d'habitude. Je tiens à remercier Inès, la présidente de Grenat, guide conférencier, qui me met en relation avec toi, Émilie. Alors, La première question toute simple, c'est qui es-tu? Que fais-tu à la... Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Et puis surtout, je pense que la question est très adaptée par rapport à ta profession. As-tu un vrai métier?
Alors oui, je considère que j'ai un vrai métier, qui est celui de guide conférencière, que j'exerce depuis pas mal d'années maintenant, puisque j'ai obtenu ma carte professionnelle en 2006. Et aujourd'hui, ben, je l'exerce en plus dans des conditions un petit peu particulières, puisque je suis à cheval sur deux frontières. Je travaille en France, dans les pays de Savoie, mais aussi en Suisse, à Genève.
Et une carte professionnelle, honnêtement, moi, il n'y a pas très longtemps, je ne savais pas qu'il fallait une carte professionnelle pour être guide conférencier.
Et si, c'est un diplôme reconnu et il faut avoir cette carte professionnelle en France pour avoir le droit de guider, par exemple, dans les monuments nationaux, dans les musées comme le Louvre ou autres. Voilà, il faut avoir cette reconnaissance, cette formation particulière, puisqu'il s'agit d'une formation à Bac plus 3. Aujourd'hui, c'est une licence professionnelle. Moi, à l'époque où je l'ai passée, en 2006, ça s'appelait encore le diplôme de guide interprète national. Mais voilà, c'est une formation qui est extrêmement complète en histoire de l'art, on fait de l'architecture, on fait des langues, beaucoup. Moi, j'ai trois langues étrangères, par exemple. Et voilà, ça nous permet d'avoir une bonne base de connaissances et pouvoir continuer à se former, parce que finalement, la formation n'est jamais finie, on continue à se former toute notre vie.
Qu'est-ce qui donne envie de faire ce métier?
Oh, beaucoup de choses. C'est... l'envie d'apprendre, de comprendre un petit peu ce qu'on vit, ce qu'on voit, qu'on comprendre les monuments, comprendre la situation des villes. Et puis une fois qu'on a appris tout ça, c'est surtout l'envie de le partager en fait. C'est un métier de communication, de partage, d'échange qui est extrêmement riche parce que ça nous permet de rencontrer énormément de gens d'horizons très variés. Des Français, des étrangers, d'à peu près tous les pays du monde, dans différentes langues, en fonction des langues qu'on parle, bien sûr. Et puis aussi des catégories sociales très, très différentes. Moi, je travaille aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes, des seniors aussi, bien sûr. Les enfants, ça peut être soit en famille, soit dans le cadre de sorties scolaires. On a parfois des classes particulières d'enfants qui peuvent être en difficulté. Et c'est vraiment toujours des moments extraordinaires parce qu'on peut leur apporter une autre vision des choses. Ça sort de l'école et ça leur fait découvrir d'autres choses, ouvrir les yeux. Donc, c'est toujours passionnant, quoi.
Est-ce qu'il y a des lieux plus particuliers, que ce soit Paris, que ce soit Lyon, que ce soit la Savoie ou la Haute-Savoie, qui donnent plus envie de conter l'histoire?
Alors, je pense que quand on se penche sur l'histoire d'un lieu, très honnêtement, il y a toujours quelque chose d'intéressant à trouver, en fait. Même sur un petit village perdu au fin fond de la France ou autre, il y a toujours quelque chose. Maintenant, c'est vrai que certains lieux sont plus riches que d'autres. Et moi, depuis que je suis arrivée dans la région, je me suis passionnée pour l'histoire de Genève, qui est quand même une ville assez unique et qui... Pour moi, enfin, je ne sais pas si un jour j'en aurais fait le tour, tellement elle est riche et tellement ce qui s'y est passé finalement a des implications un petit peu partout ailleurs. Donc, mais c'est un exemple parmi plein d'autres.
Alors, on a tous très bien entendu, tu as dit quand je suis arrivé dans la région, c'est que tu installes en Haute-Savoie, mais où étais-tu auparavant?
J'ai un petit peu bourlingué en fait. À l'origine, je suis de Franche-Comté, de Besançon. Ensuite, j'ai fait un petit bout d'études à Strasbourg, un petit bout à Angers, puis un bout un peu plus grand à Paris. C'est d'ailleurs là que j'ai passé ma carte de guide. Et je suis arrivée en Haute-Savoie en 2007. Voilà.
D'accord. Et alors, ensuite, Haute-Savoie, je ne comprends pas, tu m'as parlé de la Suisse aussi, de Genève.
Ben oui, parce que dans la région, on est vraiment frontalier et
Globe-trotteuse, non? L'image
oui,
chez
bah
toi
de
en
toute
sac à
façon.
dos avec ton petit Bob.
Ah oui, alors globe-trotteuse aussi, hein, parce qu'avant de me fixer, j'ai longtemps accompagné des circuits partout en Europe. Ça, j'ai fait ça 20 ans à peu près. Ça fait partie aussi du métier et c'est très formateur d'ailleurs. Mais non, je parle de la Haute-Savoie et de la Suisse parce que oui, ici, on est souvent des deux côtés de la frontière en réalité. C'est pour ça, moi j'habite à 10 minutes de la frontière suisse et je passe mon temps d'un côté ou de l'autre.
Je ne vais pas te demander de choisir entre les deux, mais il y a vraiment des points communs ou des spécificités communes?
Alors, il y a plein de points communs parce que la Suisse parle, c'est la langue de ses voisins. De ce côté-ci, ben, ils parlent français. C'est déjà un premier point commun. Et c'est vrai que culturellement parlant, ils sont très proches de la France. Il y a beaucoup de liens dans l'histoire de Genève avec la France. Les Suisses aujourd'hui, enfin, en tout cas les Suisses romands, regardent les chaînes françaises, enfin, suivent très attentivement la politique française, par
Tu me
exemple.
dis, ils ont combien de chaînes en Suisse, s'il te plaît?
Alors, bah déjà, en fait, il y a, comment dire, il y a une division linguistique, en fait, parce que la Suisse a donc quatre langues officielles et il y a des chaînes de radio et de télévision dans trois de ces langues. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes en allemand, suisse-allemand, en français et en italien. Voilà, ça dépend un petit peu où on est. Nous, du côté roman, c'est la RTS hein, qui fait référence. Mais après, il y a des chaînes locales. Par exemple, à Genève, on a une super chaîne qui s'appelle Le Léman Bleu, qui est basée à Genève, vraiment, et qui fait des excellents reportages, suivis d'actualité, etc.
D'accord.
Il y a un joli paysage médiatique quand même.
Bon, on commence par des questions intelligentes.
On essaye?
Alors, d'où vient le nom Genève? Oh non, Alain, tu vas pas commencer avec des questions comme ça, c'est pas vrai.
Non, mais ça va, c'est pas une colle du tout.
Oh zut.
Alors, Genève, c'est la même origine étymologique que Gênes en Italie, qui sont d'ailleurs elles sont souvent confondues, hein, parce qu'en anglais c'est Geneva d'un côté, Genova de l'autre. Donc c'est vite fait de les confondre. Et en fait, c'est une origine qui est assez ancienne, qui remonte à la première population qui a habité dans la région, qui est un peuple celte qui s'appelle les Allobroges. Qui couvrait une grande étendue, hein, finalement, puisqu'ils occupaient un territoire qui serait à peu près la Savoie, la Haute-Savoie actuelle, plus la Suisse romande, à peu près. Et puis, ils ont nommé finalement pas mal de lieux dans la région. Et Genève, eh bien, ça vient tout simplement du celte qui voulait dire embouchure. Donc, c'est l'embouchure du lac Genève. On est très descriptif chez eux. C'est le cas aussi du nom du lac Léman. Léman, ça vient de Lemencus, qui veut dire grande étendue d'eau, donc lac. Donc quand on parle du lac Léman, en fait, on fait un pléonasme, puisqu'on dit lac-lac. C'est le cas aussi de Ivoire et Évian, qui viennent d'Évoi, qui veut dire eau en celte. Voilà, on est très descriptif sur ce qu'on avait sous les yeux, finalement, à l'époque.
Mais le lac Léman, il n'est pas qu'en Suisse.
Non. Effectivement, c'est un lac qui est divisé entre deux pays, la France et la Suisse. Donc la France a le tiers sud et la Suisse les deux tiers au nord. Et pour la Suisse, il y a trois cantons en fait qui bordent ses rives. Donc on a Genève, bien sûr, à l'extrémité occidentale, mais la plus grande partie, c'est le canton de Vaud, avec la capitale du canton de Vaud qui est Lausanne, la deuxième plus grande ville au bord du lac. Et puis il y a un petit bout de Valais aussi du côté de Saint-Gingolph hein, qui fait la frontière, Évian, Montreux de chaque côté. Voilà, de ce côté-là, il y a le Valais.
Comment tu fais pour fixer tes visites? Est-ce que ce sont des gens qui disent j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, ou c'est toi qui mets en place un programme suivant tes envies, suivant ce que tu penses important?
Alors ça dépend. C'est vrai que souvent ce sont des gens qui vont s'adresser à moi, qui vont me dire ben voilà, on a besoin d'une visite de Genève, ici, ou autre. Ça, c'est le cas en particulier de toutes les agences, tour opérateurs, autocaristes, etc. En général, c'est des visites panoramiques assez générales. Après, il peut y avoir des clients individuels qui, eux, vont avoir des demandes spécifiques, alors soit sur un thème. Par exemple, j'ai eu il y a quelque temps des Américains qui voulaient faire un circuit sur les traces de Saint-François de Sales. Voilà, donc là, on est très spécifique sur ce thème-là. Et puis, sinon, ben moi, j'ai tout un tas de thématiques que je propose sur mon site internet, en fait. Donc, ça permet aussi aux gens de choisir, et c'est souvent le cas. J'ai pas mal de clients qui sont des locaux, finalement, des associations qui proposent ça à leurs membres. Et eux, ben, forcément, on va tourner un petit peu, faire toutes sortes de thèmes, parce que, ben, il faut se renouveler. Donc, si on veut faire une visite différente tous les mois, il faut aborder pas mal de thèmes.
Question gentille maintenant.
Oh ben ça, c'était les questions méchantes, ça va, oui.
Comme tu l'as dit, il suffit d'aller sur Internet pour pouvoir faire des visites virtuelles et tout. Quelle différence entre une visite virtuelle que je vais faire tranquillement de chez moi, installée dans mon canapé, et le fait de la faire avec toi?
Alors, c'est très différent. Je peux en parler parce que je fais les deux, en fait. Hein.
Zut, je le savais pas.
Depuis la situation que nous connaissons, forcément, il a fallu essayer de se renouveler un peu, essayer d'autres choses. Et donc, effectivement, j'ai commencé aussi à faire des visites virtuelles. Alors, déjà, derrière le mot de visite virtuelle, il y a énormément de choses très différentes, en fait. Il y a des visites, enfin, qui sont présentées comme des visites virtuelles, qui ne sont en fait que des conférences. Alors, qui se font en ligne, effectivement,
Totalement.
derrière un écran, mais c'est une conférence, c'est-à-dire qu'on va présenter un PowerPoint, des documents,
Exactement.
etc., et puis
Un
un
diaporama,
conférencier va
oui,
parler.
c'est ça.
Voilà. Ce qui peut être très intéressant. Mais moi, personnellement, je n'appellerais pas ça une visite, parce que pour moi, une visite, c'est se balader, c'est avoir cette notion de déplacement, voilà, de voyage, de découverte, comme ça. Ça fait partie de la visite. Et ça peut se faire aussi virtuellement. Hein. Et moi, ce que je fais, il y a deux méthodes un petit peu différentes. Il y a soit ce qu'on dit en bon français, live stream, comme ils disent, c'est-à-dire que c'est diffusé en direct. Et là, eh bien, le guide est sur place vraiment et va filmer en direct, commenter ce qu'il voit. Donc ça, c'est ce qui se rapproche le plus d'une réel sur vraiment physique, parce que là, on va être vraiment sur les lieux, on va être confronté aux aléas climatiques, aux événements qui peuvent aussi se produire dans la rue, etc. Donc c'est pas du tout aseptisé, au contraire, hein, on peut, et puis surtout, c'est totalement interactif puisque les personnes vont pouvoir ben, dire, ah, mais tiens, c'est quoi ce que je vois là? Est-ce que vous pouvez montrer plus près? Ou voilà, par exemple. Donc, on va pouvoir se focaliser vraiment sur un point particulier. Donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus proche vraiment d'une visite traditionnelle. Et après, sinon, il y a une autre manière de faire où là, le guide va être ben, chez lui devant son ordinateur. Ça nécessite plus de préparation parce qu'il faut avoir filmé avant, mais on peut se déplacer quand même dans la ville, prévoir un itinéraire, vraiment faire comme une visite, pas une conférence. Mais en étant de chez soi, l'intérêt de cette version-là, c'est qu'on peut s'affranchir des distances, en fait. Parce que quand on est sur place, une visite virtuelle, ça dure rarement plus d'une heure parce qu'après, la tension baisse vraiment et c'est pas intéressant. Et en une heure, bah, il faut quand même avoir tout concentré dans un petit endroit. Tandis que si on fait avec des vidéos préparées en amont, bah là, on peut très bien se déplacer beaucoup plus et faire des immenses sauts de puce comme ça. Donc voilà. Alors, les deux présentent un intérêt. Maintenant, voilà, pour moi, c'est très intéressant aujourd'hui parce qu'on n'a pas la possibilité de faire et de se rendre sur les lieux pour la plupart du temps. Donc, ça permet quand même de remplacer, ça permet d'avoir un véritable échange, à condition que tout le monde active sa vidéo, parce que c'est vrai que ça m'est arrivé d'en faire quand je voyais pas les gens. Compliqué, on n'a pas du tout le même échange. Donc, c'est bien de voir les gens, on a un vrai échange comme ça. Peut-être pas autrement, des gens soit qui peuvent pas sortir se balader d'habitude, soit qui sont loin et qui ont, je sais pas, on peut imaginer des élèves scolarisés au Canada et les écoles n'ont pas forcément les moyens de faire des voyages. Ben, ça peut permettre quand même de faire des visites comme ça. Maintenant, on est bien d'accord, hein, ça remplacera jamais une vraie visite. Parce que quand on est sur place, on a tous nos sens qui sont en éveil. On peut regarder partout et vraiment, les yeux, on ne se rend pas compte, mais ils bougent vraiment partout. Et quand on filme, on est assez fixe finalement. Donc, c'est un apprentissage à faire. Mais voilà, on ne voit pas autant. On n'entend pas pareil. On n'a pas les odeurs. On n'a pas plein de choses. On ne ressent pas l'atmosphère d'une ville quand on n'est pas sur place. Donc, ça remplacera jamais complètement.
C'est marrant parce que quand tu parles, j'ai l'impression que tu parles aussi comme si on parlait de spectacle vivant, comme si on
Oui.
parlait de théâtre et de musique. C'est toute cette ambiance, cette émotion qu'on
Bien
vit.
sûr. Mais c'est un petit peu la même chose, hein. Souvent, moi, avant une visite, j'ai un petit peu l'impression d'aller endosser un rôle finalement, quoi, hein, d'être le guide. On entre en scène quand on fait une visite guidée. C'est un peu la même chose finalement.
Justement, pour parler d'une des visites peut-être que tu organises sur Genève, est-ce que quand tu proposes cette visite, est-ce que tu demandes aux gens de se mettre en maillot de bain?
Alors non, je ne leur demande pas. Ça peut arriver d'en voir
Parce que
parce que
tu leur proposes d'aller voir une douche ou je sais pas, enfin c'est une douche, non? C'est quoi? C'est
une
comment est-ce qu'on
douche,
appelle ça? Je m'en
ouais, c'est
rappelle
une
plus
douche
le
géante,
nom là
mais
du au milieu du
je leur
lac là.
déconseille de s'approcher trop. Oui, effectivement,
Ouais.
c'est ce qu'on appelle le jet d'eau.
Ah oui, le jet d'eau, oui, pardon, pas la douche, excuse-moi, le jet d'eau, évidemment, c'était le jet d'eau, oui. Bon,
Oui, effectivement. Alors oui, je leur conseille, mais je crois qu'en général, j'ai pas besoin de leur conseiller parce que c'est la première chose que tout le monde va voir quand on arrive à Genève. C'est vraiment le symbole. Et quand ça arrive qu'il ne fonctionne pas, et en général, c'est une déception immense de ne pas voir le jet d'eau. Donc, oui.
tu sais, le jet d'eau, tu vas dans la cuisine, tu vas dans la salle de bain, tu ouvres le robinet, tu en as un jet d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il a de
C'est
spécifique
vrai.
celui-là? Excuse-moi,
Eh oui, et d'ailleurs, il y a des
j'ai
points
quelques
communs.
rapprochements.
Non, non, mais il y a des points communs. Voilà,
Ah
ça.
oui, ah, il y a des points communs, d'accord, ok.
Oui, en partie, ils fonctionnent effectivement comme le robinet de nos cuisines. Non,
Tu
alors, le jet
t'imagines
d'eau.
que tu es en train de désacraliser le jet d'eau du lac Léman, là. Vous ouvrez le
Non,
robinet de
non.
votre salle de bain, c'est
Non,
la
ça,
même
c'est pas
chose que le
possible
jet
de
d'eau du lac.
désacraliser.
Vas-y.
Non, non, très franchement, c'est pas possible. Parce que, et ça, on s'en est vraiment rendu compte cette année. Parce que, en fait, qu'on soit genevois ou touriste, c'est vraiment un symbole, le jet d'eau. Et je peux t'assurer que les genevois, quand ils passent devant, ils ne peuvent pas s'empêcher de le prendre en photo. Même en habitant là et en le voyant tous les jours, c'est vraiment un symbole. Et pendant le confinement, l'année dernière, en fait, il a été arrêté pour symbole de solidarité finalement. Et vraiment, ça a été. Oui, ça a rajouté à la tristesse ambiance, quoi. Ambiante, vraiment. Ça nous manquait et ça a été une émotion immense quand il a été remis en route. D'ailleurs, il y a eu toute une cérémonie officielle avec les autorités de Genève, avec le directeur de l'OMS, etc. Bien sûr, ça s'est fait en grande pompe à la télé et tout ça. Et il y a énormément de gens qui ont suivi son redémarrage parce que, oui, il fait partie de notre vie vraiment, ce jet d'eau ici.
Enfin, moi, quand je joue mon mitigeur, j'invite pas le président de la République, hein.
Non. Non, mais alors ton mitigeur, je pense qu'il est un petit peu mouillé.
Qu'est-ce qui symbolise ce jet d'eau?
Alors, il symbolise, à l'origine, il symbolise rien du tout. Hein. Il n'a pas été créé en tant que symbole, contrairement à l'horloge fleurie, par exemple, qui est un autre symbole de Genève, où là, on est vraiment pour symboliser la capitale de l'horlogerie de luxe. Le jet d'eau, ce n'est pas vraiment un symbole à la base, c'est quelque chose de purement pratique en réalité.
Ah
Et
oui.
pour comprendre son origine, il faut remonter au 19e siècle.
Ça évitait aux gens d'aller prendre des douches, ils pouvaient être sur le lac et puis ils pouvaient se
Non,
laver comme...
non, non.
D'accord.
Non, non. Non, en fait, c'est le passé industriel de Genève qui est illustré là, finalement. Parce que, bien, au 19e siècle, on avait pas mal d'industries, et entre autres une que je viens déjà de mentionner, c'est l'horlogerie. Et tous ces artisans étaient regroupés essentiellement dans un quartier qu'on appelait la Fabrique, hein, qui est sur les bords du Rhône. Et à Genève, on n'a jamais eu de charbon, mais par contre, on a de l'eau. Donc les machines de ces artisans ne fonctionnaient pas à la vapeur, mais fonctionnaient à l'eau sous pression. Et à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, l'ingénieur cantonal va décider de faire construire une immense usine avec 18 turbines gigantesques pour fournir de l'eau sous pression du coup à ces horlogers et autres artisans, ils n'étaient pas les seuls. Mais voilà, donc c'est une immense usine qui est construite, qui fonctionne avec l'eau du Rhône. Simplement, le Rhône, bien évidemment, il ne s'arrête jamais de couler. Hein. Lui, c'est vraiment un afflux continu. Et ces horlogers, eux, de temps en temps, quand même, ils arrêtaient de travailler. Hein. Le soir, le dimanche, en général, ils ne travaillaient pas. Alors, si chez eux, il suffisait d'appuyer sur un bouton pour arrêter leur machine, ensuite, pour tout le réseau de tuyaux et pour les turbines, mais c'était un petit peu plus long à arrêter. Ça met du temps à arrêter cette machinerie. Et pendant ce laps de temps, eh bien, ça aurait créé une surpression finalement dans les tuyaux parce que l'eau, la pression continue à arriver. Donc, c'était problématique, bien sûr, ça aurait pu faire exploser tout le réseau. Donc, il a fallu trouver une solution. Et laisser cette pression s'évacuer dans le Rhône n'était pas possible à l'époque parce que le Rhône était ultra encombré. Il y avait encore les quais de la Vendière, il y avait les moulins, il y avait tout un tas de choses. Donc, c'était pas possible. Puis, ça aurait créé trop de perturbations. Donc la seule solution, eh bien, c'était de laisser cette pression s'évacuer dans l'air. Et c'est comme ça que le tout premier jet d'eau a été créé, juste au bout de l'usine, au milieu du Rhône, en plein centre-ville, simplement soupape de sécurité de ce réseau d'eau. Alors bien sûr, il n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui, il faisait qu'une trentaine de mètres de haut. Mais voilà la naissance du jet d'eau dans les années 1880.
Et pourquoi c'est devenu une véritable attraction touristique ?
Eh bien, alors, dès le départ, finalement, ça a beaucoup plu aux Genevois, parce que faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Hein, on n'allait pas prendre sa voiture, aller faire des balades en montagne, on n'avait pas la télé et tout ça. Et très vite, finalement, comme il fonctionnait en général le dimanche, puisqu'il y avait ce problème de surpression le dimanche, c'est devenu la sortie familiale du dimanche d'aller voir le jet d'eau. Donc, il est devenu très cher au cœur des Genevois assez rapidement. Et puis, quelques années plus tard, en 1891, c'était une année un petit peu particulière pour la Suisse, puisque c'est l'année où on a fêté les 600 ans de la Confédération, qui officiellement est née le 1er août 1291, lors de la signature du pacte fédéral. Donc 600 ans, c'était un anniversaire à marquer, et puis c'était une année doublement spéciale, puisque c'est aussi la première année où on a célébré la fête nationale le 1er août. Donc voilà, on a voulu à Genève, comme dans plein d'autres endroits, marquer le coup, vraiment faire quelque chose d'exceptionnel. Et ils se sont dit, tiens, on va utiliser ce jet d'eau qui plaît tant et on va le pousser un peu plus et on va créer la plus haute fontaine d'Europe. Et du coup, il a été décidé de le pousser jusqu'à 90 mètres, donc c'était trois fois quand même sa hauteur d'origine. C'était un petit peu trop dangereux de le laisser à l'emplacement qu'il avait à l'époque, c'est-à-dire en plein centre-ville. Et c'est à ce moment-là qu'on va le déplacer où il est aujourd'hui, donc dans la rade, un peu plus à l'extérieur, au bout d'une jetée qui existait déjà. Et on l'installe là. Ça, c'est le deuxième jet d'eau, on pourrait dire. Mais il est toujours relié à l'usine. C'est toujours la soupape de sécurité de cette usine.
D'accord.
Simplement, on le pousse un peu plus haut et on l'actionne aussi à la demande quand on veut. Mais il fonctionne aussi encore en sécurité. Et ça va durer jusque dans les années 50, où là, on va l'équiper de ses propres motopompes. Donc aujourd'hui, il y a deux pompes comme ça qui sont juste en dessous, finalement. Et donc, depuis cette époque-là, il est séparé du réseau d'eau de la ville. Et c'est un circuit ouvert fermé, si je puis dire, puisque l'eau est pompée dans le lac et renvoyée dans le lac après être passée dans le jet d'eau. Donc c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui avec ces deux pompes qui s'appellent Jura et Salève, ça montre bien leur positionnement puisque c'est le nom des deux montagnes qu'on a de part et d'autre du lac et qui vont envoyer l'eau comme ça avec une pression de 8 bars chacune, donc on a 16 bars en tout de pression pour envoyer cette eau en l'air jusqu'à 140 mètres de haut.
Dis, tout à l'heure, tu as parlé d'un truc que je n'arrive pas à matérialiser au niveau visuel, c'est l'horloge fleurie.
Oui, alors elle est assez près du jet d'eau, l'horloge fleurie, elle est dans ce qu'on appelle le jardin anglais. Et cette horloge, elle a été créée en 1955, donc il faut s'imaginer un petit terre-plein, on va dire, avec une horloge qui est à un angle de 45 degrés à peu près. Et qui est réalisé en plantes, en fleurs. Donc le cadran est en fleurs, il y a tous des motifs, du volute autour, etc. Et on a par contre un véritable moteur qui est caché sous le sol et des immenses aiguilles pour indiquer l'heure. Ces aiguilles, elles ont d'ailleurs été offertes par Patek Philippe lors de la dernière refonte il y a 3 ans maintenant. Mmh. Donc Patek Philippe, la célèbre marque horlogère genevoise. Et d'ailleurs, c'est l'aiguille des secondes et dans le Guinness Book des records, puisqu'il s'agit de la plus longue aiguille du monde. Elle fait 2,50 m de long. Donc c'est quand même assez imposant. Et l'horloge, eh bien, elle est changée 5 fois par an, à chaque saison, plus une fois en printemps-été, mm-hmm. avec des plantes, des fleurs différentes. Et il en faut entre 6 et 10 000 à peu près pour créer ce motif. Donc c'est assez impressionnant.
C'est original parce que quand on est à Genève, on a l'impression que tout tourne autour du lac.
Alors aujourd'hui, la ville est beaucoup tournée autour de son lac. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis le 19e siècle, oui, le lac est central, bien sûr.
Il y a des gens un peu connus qui sont à Genève. Et bon, par exemple, je pourrais faire un peu d'humour en disant que je pensais à Oui Oui. C'est pas Oui Oui. Ah non, pardon, c'est Sissi, pardon. Je suis sûre.
Alors oui, Sissi, elle est passée par ici, effectivement. Comme tant d'autres personnalités, malheureusement, son histoire à elle, comme le reste de sa vie, je crois, s'est terminée assez tragiquement à Genève, effectivement. Elle était là en 1898, et vous savez que Sissi, elle passait son temps à fuir la cour de Vienne, elle essayait toujours d'être ailleurs, et elle est venue souvent au bord du Léman, alors soit à Genève, soit à Montreux. Et cette année 1898, elle était au Beau Rivage, à Genève, qui est un des premiers 5 étoiles qu'on ait eu, hein, vraiment au bord du lac, un magnifique hôtel. Elle séjournait là et elle va sortir de son hôtel, traverser la rue pour se rendre sur le quai, pour aller prendre un de ces bateaux à vapeur à aube que l'on a sur le lac, hein, qui circule encore. Mmh. D'ailleurs, c'est une magnifique flotte qu'a la CGN, la Compagnie Générale de Navigation. C'est une des plus belles flottes au monde. Hein. Il n'y a pas moins de 8 bateaux qui sont classés monuments historiques. Qui sont des bateaux d'une belle époque, hein, qui datent du début du XXe siècle. Mmh. Et donc, elle avait prévu d'aller prendre un bateau qui s'appelle le Genève, d'ailleurs, qui est aujourd'hui amarré en permanence parce qu'il ne navigue plus. Et donc, elle traverse, et malheureusement, son chemin va croiser celui d'un anarchiste italien qui va la poignarder. Et sur le moment, en fait, tout le monde, enfin, on se rend pas bien compte de ce qui se passe. On a vu qu'elle avait été effectivement bousculée, touchée comme ça, mais voilà, c'est dans la panique, on se rend pas vraiment compte. Toute l'assemblée là, continue son chemin comme ça jusque sur le bateau, et c'est sur le bateau qu'on va se rendre compte qu'effectivement elle est blessée grièvement et qu'on va la ramener dans sa suite du Beau Rivage où elle va décéder quelques instants plus tard. Et c'est vraiment une histoire très triste parce que cet anarchiste italien n'avait absolument aucune idée de qui il a poignardé en fait. D'ailleurs, il avait même pas les moyens de s'acheter un couteau, c'est avec une lime qu'il l'a poignardé. Et en fait, pourquoi c'est tombé sur elle ? Il voulait faire un coup d'éclat contre une personne riche, et c'est Sissi qui l'a croisé. Mais il avait aucune idée que c'était l'impératrice d'Autriche, quoi. Donc,
alors, je donne l'exemple de Sissi, mais il y a bien d'autres gens connus qui viennent. Est-ce que Genève, c'est un endroit, grâce au lac, qui permet d'être dans une certaine zénitude, ce qui permet d'avoir une certaine pureté, d'avoir des paysages qui sont assez jolis ?
Bien sûr, ouais, les paysages du Léman sont absolument extraordinaires, très variés d'ailleurs, parce qu'on a un très beau paysage à Genève, mais faites quelques kilomètres, vous allez dans le canton de Vaud, vous allez avoir un autre paysage avec le Mont Blanc en arrière-plan, enfin, voilà, c'est assez magnifique, et bien sûr que ça en a fait rêver plus d'un depuis longtemps, et en particulier, je pense que tu fais référence aux romantiques du 19e siècle.
Franchement, il faut que je donne l'impression que c'était pas calculé.
Mais oui, mais ils sont tous venus là, vraiment, c'était une destination absolument génial pour eux. On a par exemple la Martine qui a passé pas mal de temps au bord du lac du Bourget, mais il est aussi venu au bord du Léman. Entre autres, il a résidé quelques mois à Nernier, qui est un petit village à côté d'Ivoire, donc ça côté français. Mais on a aussi beaucoup d'étrangers et peut-être parmi les plus célèbres, on va avoir certains Anglais qui vont venir là. Alors ça commence en fait au début du 19e siècle, parce que les Anglais, après, pendant les guerres napoléoniennes, sont coincés un petit peu sur leur île. Il y avait eu une trêve simplement en 1802 qui a permis au grand peintre William Turner de se rendre dans les Alpes. Et il a peint comme ça plein de tableaux de montagnes, de hautes montagnes, qui vont circuler dans les milieux aristocrates anglais pendant les guerres, et qui va leur donner fortement envie de voir ces montagnes. Et vous savez, à l'époque, les jeunes aristocrates anglais, ils pratiquaient ce qu'on appelait le grand tour, qui est à l'origine du mot tourisme d'ailleurs, qui était l'idée de compléter son éducation, sa formation, en se rendant à l'origine en Italie pour aller voir les ruines antiques, pour aller voir les peintures et sculptures de la Renaissance, etc. Et avec le temps, on va rajouter de plus en plus d'étapes comme ça en chemin. Et à partir de la fin des guerres napoléoniennes, eh bien Genève devient vraiment un arrêt quasi obligatoire pour ces Anglais, parce que c'est un point d'excursion idéal qui permet à la fois de se rendre dans les montagnes. Hein, on n'est qu'à 80 km de Chamonix et du Mont Blanc. Faut pas oublier que la mer de glace a été nommée comme ça par deux alpinistes anglais, Windham et Pocock.
Exact.
Donc voilà, ils connaissaient hein, quand même ce
Je vois que tu as une certaine culture quand même, c'est bien.
lieu-là.
Hein.
Tu crois?
Oui, je c'est bien.
Et puis, à part les montagnes, il y a aussi le lac, effectivement, qui les attire beaucoup. Et en particulier parce que ils ont lu un auteur genevois qui n'est autre que Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, il est né à Genève en 1712. Et entre autres, les Anglais avaient beaucoup lu la Nouvelle Héloïse, qui leur a énormément plu. Et finalement, ils viennent en pèlerinage pour voir les lieux de la Nouvelle Héloïse. Donc, ils viennent voir Saint-Pré, Clarence, Chignon, etc. Ils viennent voir le lac. Et certains sont très célèbres et vont même se rencontrer à Genève pour la première fois. Il s'agit d'un certain Lord Byron, qui quitte l'Angleterre en 1816, accompagné de son médecin John Polidori. Comme tous les Anglais de l'époque qui arrivent à Genève, eh bien, ils séjournent à l'hôtel de Sécheron. Le quartier de Sécheron, c'est là où est installée l'ONU aujourd'hui. Alors l'hôtel n'existe plus, mais voilà, c'est sur les rives du Léman. Et dans cet hôtel, eh bien, ils vont rencontrer d'autres Anglais, et en particulier un poète bien connu qui s'appelle Percy Shelley, qui est accompagné de sa maîtresse encore à l'époque, qui est Mary Godwin Wollstonecraft, qui deviendra plus tard Mary Shelley, puisqu'elle deviendra sa femme, mais à l'époque, lui, il est marié avec une autre. Et
Eh oui, déjà.
ils étaient assez sulfureux, tous.
Dé
Et
déjà à l'époque.
puis, exactement. Et elle est accompagnée de sa demi-sœur, qui était la maîtresse de Byron. Bref, c'est toute une histoire. Tout le monde se rencontre donc dans cet hôtel de Sécheron. Et on peut dire que c'est un coup de foudre amical, littéraire, finalement, entre ces jeunes gens. Ils sont vraiment jeunes. La Marie, elle a 18 ans. Byron, il est dans la fin de sa vingtaine aussi. Donc voilà, ce sont vraiment les jeunes gens qui se rencontrent et qui décident de passer l'été ensemble à Genève. Et du coup, eh bien, ils vont louer chacun une villa. Celle qui est louée par les Shelley n'existe plus aujourd'hui, mais celle que Byron va louer s'appelle la Villa Diodati. Elle existe encore. C'est une propriété privée. Ce sont des Américains qui la possèdent aujourd'hui. Les deux villas sont dans une commune qui s'appelle Colonie. Colonie, c'est probablement une des plus jolies vues sur le lac Léman, donc de l'autre côté, hein, sur la rive gauche du lac, face au quartier des organisations internationales aujourd'hui. Donc voilà, on a une vue magnifique sur l'ONU, mais bien sûr, à leur époque, ça n'existait pas encore. Et donc, ils passent l'été ici. Mais 1816, c'est une année assez spéciale. C'est l'année qu'on va appeler l'année sans été, parce que il y avait eu un volcan qui est entré en éruption sur l'île de Java. Donc, pour pourtant à l'autre bout du monde. Mais
ah oui,
c'est
j'allais
une
dire
éruption,
oui, parce que je ne savais pas que l'île de Java était à côté de la Suisse, moi.
Mais non, non, c'est l'autre bout du monde. Mais l'éruption était absolument gigantesque. Je crois que le volcan avait perdu quelque chose comme 800 mètres d'altitude, tellement il a littéralement explosé. Donc, notre petit volcan islandais, il y a quelques années, il est ridicule à côté de cette explosion-là. C'était vraiment une éruption parmi les plus grandes de l'histoire, et qui a propulsé un immense nuage de cendres qui va se déplacer, qui va finir par s'arrêter sur l'Europe pendant plusieurs mois, comme ça il va stagner au-dessus de l'Europe, et donc pendant cette année 1816, qui va être absolument terrible, parce que du coup, il n'y aura vraiment pas d'été, c'est-à-dire que les températures maximales cet été-là seront de peut-être 10-13 degrés, il va pleuvoir assez souvent, on a des retombées de cendres, etc., donc c'est un temps assez cataclysmique quand même. Et alors ça va entraîner des conséquences importantes d'un point de vue social, parce que les récoltes seront absolument catastrophiques, donc il va y avoir des famines et donc une crise sociale derrière. Et puis pour nos jeunes Anglais qui étaient là pour aller voir les montagnes et se promener sur le lac, forcément c'est pas terrible non plus, ils se retrouvent coincés la plupart du temps dans leur maison à ne pas avoir grand chose à faire. Alors bon, ce sont tous des littéraires, donc ils avaient emmené un bon stock de livres, donc ils lisent beaucoup, et entre autres Byron avait emmené un livre allemand, l'histoire de fantômes, qui va lui donner l'idée de lancer un concours. Et si on écrivait une histoire la plus horrible possible. Et donc, ils se mettent comme ça, chacun, à écrire un petit morceau. Alors, Percy, par exemple, va abandonner assez vite. Byron, il va écrire un fragment de roman, mais c'est pas ce qui restera le plus dans son œuvre. Et puis, celle qui va bien sûr remporter le concours, c'est bien sûr Mary, parce qu'elle va écrire Frankenstein. Ouais. Et rien que ça.
C'est pas un fantôme, Frankenstein.
C'est pas un fantôme, non. Mais c'est une histoire horrible, hein. L'idée, c'était ça.
C'est pas vrai, il est gentil, Frankenstein.
À la base, oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est comme ça qu'elle l'a décrit, d'ailleurs, hein. Et quand on voit les illustrations des toutes premières éditions illustrées, c'est vraiment ça. Il est représenté complètement... apeuré, en fait, effrayé par sa condition, par la réaction que les gens ont. Alors, attention, hein, on parle pas de Frankenstein, on parle de sa créature. Frankenstein, c'est le docteur Victor Frankenstein qui est le créateur. La créature, elle n'a pas de nom. Donc, c'est juste cette créature, et qui, finalement, à la base, n'est effectivement pas mauvaise du tout, et on retrouve complètement les thèmes rousseauistes. Hein. On est dans cette thèse de Rousseau que l'homme est bon, c'est la société qu'il corrompt. Et cette créature, quand elle prend vie, elle est pas mauvaise du tout. C'est simplement la réaction que les hommes vont avoir vis-à-vis d'elle qui vont la rendre mauvaise, qui vont la rendre criminelle. Et le premier crime de la créature, qui a lieu d'ailleurs à Genève, hein, sur la plaine de Plainpalais, c'est génial quand on lit le roman, c'est qu'on reconnaît vraiment tous les lieux, parce qu'il y a une bonne partie qui se passe donc à Genève. Et donc le premier crime de la créature, c'est qu'il va tuer le petit frère de Victor Frankenstein. Mais c'est un accident, parce qu'en fait, il le tient dans ses bras, il est apeuré de la manière dont les autres sont effrayés en face de lui, et il va le serrer trop fort et l'étouffer. Mais c'est vraiment une maladresse, un mauvais contrôle de son corps à la base, c'est pas du tout un crime prémédité. Et voilà, après, ce sont ces réactions qui vont l'amener à d'autres crimes plus tard. Mais c'est ça qui est très intéressant à lire dans le roman. En fait, c'est un roman qui est vraiment complètement de son époque, entre ses thèses de Rousseau, puis entre toutes le développement des nouvelles sciences, en fait, de l'époque. Mary, elle est fascinée par toutes les expériences qui sont faites à l'époque par Galvani, par exemple sur l'électricité. On est vraiment dans cette période d'effervescence où on essaye de comprendre toutes ces formes d'énergie. Et elle, ce qu'elle recherche, c'est ce qui est écrit, c'est the spark of life, c'est l'étincelle de vie, quoi, finalement. C'est qu'est-ce qui fait la vie? Finalement, est-ce qu'on peut recréer la vie comme ça à partir de morceaux d'un corps? C'est toute la question, c'est un roman très philosophique au final.
Il y a plein de choses. J'ai été en jeu de Radio Insolite avec Émilie Bissardonf, qui est guide de conférencière agréée. Émilie, je me rappelle que quand j'étais à Colmar il y a 3 ans, c'est le préfet du Haut-Rhin qui m'a donné le thème de la chronique. Il m'a dit « pas de tourisme sans mémoire, pas de mémoire sans tourisme ». On parle des deux en même temps. En quoi c'est important de comprendre hier pour appréhender aujourd'hui et préparer demain?
C'est extraordinaire, c'est exactement ce qu'on a mis sur le dossier pédagogique.
Je te remercie de dire que je suis extraordinaire, je
Mais
suis...
oui, non mais c'est vrai, c'est génial. Non mais c'est extrêmement important parce que en fait on se rend compte qu'une société qui perd son histoire, qui perd sa mémoire, elle est perdue, elle n'a plus de référence et elle a toutes les chances de refaire exactement les mêmes erreurs que par le passé. Si on veut évoluer, s'améliorer, eh ben, il faut connaître notre passé et essayer de le comprendre, de l'analyser. Et c'est, oui, c'est comme ça qu'on comprend aussi mieux ce qu'on vit, comme ça qu'on arrivera mieux à vivre ensemble aussi probablement, parce que finalement, en général, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et si on apprend à se connaître, à connaître les différentes cultures, les différentes civilisations, eh ben, normalement, ça se passe mieux.
Oui, mais en remontant jusqu'à quand? Parce que toi, tu me parles de Rousseau, tu me parles de 1800. Moi, il y a deux petits jeunes que je suis en train de suivre qui me paraissent assez bien. Ils ont un potentiel futur, je crois. Ils s'appellent Socrate et Platon. Il faut aller chercher où tous ces trucs-là? On réinvente à chaque fois l'eau chaude ou quoi?
Non, je pense pas que ça soit une réinvention de l'eau chaude. Voilà. Et il faut pas non plus tout appliquer au pied de la lettre, parce que bien sûr, il y a énormément d'écrits qu'il faut resituer dans leur contexte. Et d'ailleurs, c'est une discussion qui est complètement d'actualité avec tout ce qui est cancel culture et tout ce qu'on a en ce moment. Faut pas supprimer le passé, parce qu'il faut simplement effectivement mettre dans le contexte. Et c'est l'erreur qu'on fait souvent, c'est de lire ces textes anciens avec des yeux de gens du 21e siècle, finalement, alors que c'est aberrant quelque part, parce que le contexte historique est important, mais oui, Socrate, Platon, Aristote, ils sont essentiels et ils ont un écho extrêmement moderne, souvent, en plus, quand on les relit.
Et je pourrais penser aussi à Lao Tzu avec l'art de la guerre. Là,
bien
franchement, c'est même pas la guerre, c'est toute la stratégie commerciale, les relations, etc., etc.
Ah, mais alors ça, en plus, ça tombe bien parce que parmi les endroits où je travaille dans un musée qui s'appelle la Fondation Martin Bodmer, qui est à Cologne aussi, justement. Quelques mètres de la Villa Diodati où était écrit Frankenstein. Et on a. C'est une des plus grandes bibliothèques privées du monde, en réalité, cette fondation. Et bien, il y a des trésors. Et dernièrement, juste avant le confinement, on avait une exposition qui s'appelait Guerre et Paix, qui était là pour célébrer les 100 ans du multilatéralisme. Et on a exposé justement l'art de la guerre de là-dessus. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ce livre, qui est présenté souvent comme effectivement le premier traité sur la guerre, qui a été écrit, en réalité, quand on le lit attentivement, bien sûr, il présente toutes les stratégies, toutes les techniques possibles et inimaginables pour faire la guerre, mais sa conclusion, finalement, c'est que le meilleur stratège, ben, c'est celui qui va réussir à éviter la guerre, finalement. La meilleure manière de faire la guerre, c'est de ne pas la faire, au final.
Exactement.
Donc, c'est assez intéressant.
Un truc que j'ai pas dit au départ, c'est qu'évidemment, enfin, ça n'est que le premier rendez-vous avec Émilie. Et vous avez vu qu'il y a tellement de richesse que nous allons avoir un deuxième rendez-vous. Enfin, je vais te remercier d'avoir pris ce temps pour nous expliquer un peu Genève et tout. Il y a une question que je t'ai pas posée, mais je la garde pour la fois suivante. C'est comment est-ce que c'est construit Genève? On la garde pour la prochaine fois?
Oui.
Merci.
Je pense, parce que c'est une bonne question.
Merci.